Courrier cadre, l'entretien.
Bonjour Charles.
Bonjour.
En quoi la philosophie peut-elle nous aider à nous sentir bien et peut-être aussi à nous épanouir au travail ?
Alors la philosophie, elle permet déjà de penser ce qu'on est en train de faire et notamment de questionner peut-être le sens de sa pratique. Alors ça ne nous fait pas nécessairement du bien parce qu'il y a évidemment beaucoup de métiers où le sens est dur à trouver, voire difficile à assumer. Et moi, mon propos, c'est surtout pas d'avoir une philosophie qui est faite pour emballer le monde du travail et pour le vendre et pour le rendre légitime. Bien au contraire, je pense qu'il y a des moments où le travail n'est pas défendable et où le sens est difficile à trouver. Et la philosophie, elle n'a pas du tout pour fonction de rendre le travail plus agréable ou de rendre le travail indolore, mais plutôt de questionner. En revanche, moi, dans mon chemin philosophique, vu que j'ai beaucoup travaillé sur l'échec, beaucoup travaillé sur la confiance, beaucoup travaillé sur le rapport au passé, il se trouve que ça permet peut-être de mieux savoir où on en est, éventuellement plutôt de changer de métier, de changer de poste, éventuellement de plaquer aussi son boulot pour un autre. Et donc, je vois plutôt les choses comme ça. Et par ailleurs, je me méfie aussi de cette notion de bien-être au travail et de cette obsession de se sentir bien au travail. Je propose une approche un peu différente. Pour moi, ce qui compte, par exemple, c'est là où la philosophie peut nous éclairer, c'est sur notamment le fait que le bonheur est surtout relationnel. Et donc, on va comprendre que si je suis heureux dans mon travail, ça peut être soit parce que j'ai une qualité de relation avec des gens avec qui je travaille, et ça peut permettre de compenser le fait que le travail en lui-même n'est pas passionnant, voire que je n'ai pas assez de reconnaissance, voire que je ne suis pas assez bien payé, mais il y a une qualité de l'environnement relationnel quotidien qui a toujours été dans toutes les civilisations le premier critère du bonheur. Il y a un autre type de bonheur que la philosophie permet de comprendre, c'est le bonheur de la reconnaissance. C'est-à-dire que Hegel disait que l'animal humain a besoin avant tout de reconnaissance, son premier désir est un désir de reconnaissance. Troisième chose, la capacité à se développer. Et dans ce cas-là, c'est moins le bonheur que peut-être la joie au sens de Spinoza. La joie, c'est la capacité à croître son potentiel, sa puissance, ses talents. Et la joie nous envahit quand on est capable de se développer, de développer son talent, de développer sa compétence au contact d'une pratique.
Et pour avancer, justement, on a parfois des expériences qui sont douloureuses, qu'on ressasse, qu'on rumine. Comment on fait pour que ça ne nous bloque pas et pour réussir à avancer ?
Alors ça, c'est le sujet de mon dernier livre, « Vivre avec son passé ». On peut effectivement exporter cette thèse au plan du travail et se dire, voilà, comment je fais quand j'ai eu dans mon passé de travailleur, pour prendre un terme marxiste, ou dans mon passé de cadre, j'ai vécu quelque chose de douloureux, j'ai été humilié, j'ai eu un N+1 toxique, un pervers, ou alors je me suis fait virer de façon injuste, ou alors j'ai pas été augmenté alors que les autres l'ont été. Qu'est-ce que je fais par rapport à quelque chose de douloureux dans le passé qui éventuellement peut même être traumatique ? Et je pense qu'il faut faire attention par rapport à deux excès, deux écueils. Le premier, c'est d'être bloqué sur la case du passé, d'être dans le ressassement, d'être dans la rumination, de remâcher l'injustice. Et le deuxième, c'est l'écueil symétrique, c'est de croire qu'on va aller de l'avant comme ça, en appuyant sur la touche reset et en n'y pensant pas, en disant voilà, c'est du passé, je vais passer à autre chose. La vérité, c'est qu'on ne peut pas passer à autre chose. Que le passé reste sous forme de souvenirs, de règles de vie implicites, de schémas, d'estime de soi ou d'absence d'estime de soi. Donc on ne peut pas passer à autre chose. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans le ressassement et la rumination. Du coup, entre les deux, il y a un rapport qu'on pourrait appeler avec Bergson de récapitulation créatrice, c'est-à-dire je vais essayer de comprendre de quoi j'hérite pour aller de l'avant avec cet héritage, mais sans m'identifier à mon passé. C'est un peu compliqué, ça veut dire il faut que je sache ce que j'ai vécu, que je sache en tirer des leçons, que je sache m'en souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs, que je sache aussi être fier de ce chemin, même si sur le chemin, il y a eu des choses douloureuses. Et avec ça, toujours me dire, en fait, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de cette expérience ? Et quand on a ce regard-là, on arrête de dire c'était réussi ou raté, c'était humiliant ou de la fierté. C'est toujours une expérience de vie. Et la question, c'est pas qu'est-ce que cet échec dit de ma valeur, mais qu'est-ce que je vais faire de cet échec comme une expérience pour aller de l'avant.
Est-ce qu'on ne devrait pas tous adopter la philosophie de Zlatan que vous aimez bien aussi citer ? Je suis ce que mon passé a fait de moi, mais je ne suis pas simplement cela.
Oui, alors cette phrase, elle n'est pas de Zlatan, elle est de moi. Mais la phrase de Zlatan que je fais résonner en écho, c'est celle-là. Et je vais la citer quand même pour rendre hommage à Zlatan. On peut sortir de Rosengard tu peux sortir de Rosengård, Rosengård étant la banlieue difficile de Stockholm, mais Rosengård ne sortira jamais de toi. Ça veut dire que il ne faut pas croire qu'on peut s'extraire du passé, qu'on peut s'arracher à sa classe sociale, qu'on peut s'arracher à un passé douloureux d'humiliation scolaire, par exemple. Non, on ne peut pas, s'extraire, on ne peut pas faire table rase du passé. Mais en revanche, comme il ne faut pas rester bloqué dedans, comme il faut vivre avec son passé et non pas dans son passé, pour éviter le ressassement et la rumination, il faut trouver la juste distance. Et la juste distance, c'est aussi d'avoir une fidélité à son passé. Parce que si vous voulez aller de l'avant, comme Zlatan quand il marque certains buts d'ailleurs, aller de l'avant de manière efficace, de manière accomplie, de manière heureuse, vous ne pouvez le faire qu'en étant vous-même, c'est-à-dire en ressaisissant toute votre histoire, en étant l'héritier de tous vos succès et de tous vos échecs, en étant dans une forme de fidélité à votre chemin. Or aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant votre question, il y a une illusion propre à la modernité, que j'appelle dans mon livre « Vivre avec son passé » l'illusion moderniste, qui est de dire « non, je vais avancer sans m'intéresser au passé, parce que c'est lourd, parce que c'est pesant, et je vais m'alléger, comme si c'était une décision, comme si un jour je me réveillais ». C'est un peu comme ceux qui disent « ouais, le bonheur, c'est une décision », avec cette phrase de Voltaire grotesque, il a d'ailleurs jamais dite, hein, « oui, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Comme si on allait décider comme ça qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de casserole, qu'on n'a pas d'angoisse, qu'on n'a pas de deuil. C'est une phrase que l'époque adore, mais que moi je déteste. Non, on décide pas de tout. Et ben, c'est pareil, on décide pas de se débarrasser de son passé. Zlatan, ce grand philosophe, le dit très bien. Tu peux sortir de Rosengård, Rosengård ne sort pas de toi. Tu peux avoir réussi en étant sorti de ta classe sociale, mais ta classe sociale, elle est en toi, à travers ta façon de parler, de manger. Même ton corps emporte le souvenir. Et moi, je crois que c'est très beau de dire qu'on emmène toujours avec soi toute son histoire.
Quelles sont ces conditions pour tirer le meilleur d'un échec ?
Alors, c'est très intéressant d'essayer d'identifier les conditions sous lesquelles un échec peut être vertueux, parce que ça nourrit à la fois l'optimisme et la lucidité un peu pessimiste. Parce que quand ces conditions ne sont pas réunies, le risque, c'est que l'échec soit pas du tout vertueux, que ce soit très douloureux, voire qu'on ne s'en relève pas. Maintenant, quelles sont les conditions qu'on peut essayer de mettre en place ? Première condition, pas de déni. Si vous êtes dans le déni de l'échec, il n'y aura jamais de vertu de l'échec. Donc par exemple, en tant que prof de philo, j'ai souvent vécu ça, je rends une copie, je passe 6 sur 20, et l'élève, rebelle, ouais, de toute façon, pépin, il note n'importe comment, et il relira jamais sa copie. Déni de l'échec. Cet échec ne peut pas être vertueux. Mais vous avez, dans le CAC 40, des grands patrons qui ont signé un contrat au début de leur mandat, où ils ont prévu le parachute doré et la retraite chapeau, qu'ils auront, même en cas d'échec, même s'ils ont mal géré la boîte. Dans ce cas-là, le déni de l'échec, il est prévu dans le contrat. Il est institutionnalisé par avance. C'est pareil que l'élève qui ne veut pas lire sa copie. Donc là, première condition, il ne faut pas qu'il y ait de déni de l'échec. Deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait d'identification à son échec. Autrement dit, j'ai raté cela, mais moi je ne suis pas un raté. D'ailleurs, c'est pareil avec le succès. Hein. J'ai réussi cela, mais moi je ne suis pas un winner. C'est juste que ici ça s'est bien passé, ici ça s'est mal passé. Et ça, c'est très important, pas d'identification. Mon échec n'est pas l'échec de mon moi, n'est pas l'échec de ma personne, c'est l'échec de mon projet, de mon initiative. Donc ça, c'est important. Pas de déni, pas d'identification. Ensuite, prendre le temps d'entendre ce que mon échec pourrait me dire. Et là, c'est très compliqué, et ça prend du temps d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut être accompagné, et qu'il ne faut pas être pressé par l'époque, il faut sortir un peu de la hâte, et parfois on n'a pas le temps, hein. Je sais que c'est compliqué. Et il y a des échecs qui disent en gros, c'est ton truc, c'est ton chemin, c'est ton désir, vas-y, continue, persévère, ce n'est pas de l'entêtement, parce que ça consonne avec ton désir, parce que tu en as vraiment envie, et ça peut être bon pour toi de continuer. Et il y a des échecs qui disent le contraire, qui disent en fait, c'est pas fait pour toi, casse-toi, change de voie, bifurque, ou alors bifurque au sein de la même voie en faisant autrement. Et donc, est-ce que votre échec pourrait avoir une vertu de persévérance ? Dans ce cas-là, il faut continuer. Ou est-ce qu'il pourrait avoir une vertu de bifurcation ? Dans ce cas-là, il faut prendre un autre chemin. Et ça, c'est la troisième condition. En fait, je suis dans quel cas ? Et c'est très compliqué, je ne peux pas en deux phrases vous répondre. C'est très compliqué de savoir si on peut espérer viser une vertu de persévérance ou une vertu de bifurcation. Donc ça fait trois conditions. Quatrième condition, elle n'est pas individuelle, elle est structurelle. Elle n'est pas individuelle, elle est structurelle. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut que le monde, la société, l'école, les familles, les entreprises proposent un autre regard sur l'échec et arrête de stigmatiser ceux qui échouent. Et ce changement de regard, on en est tous responsables.
Pour cultiver la confiance, est-ce qu'on a forcément besoin des autres ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Pour cultiver la confiance, est-ce qu'on a forcément besoin des autres ? Oui, évidemment. Contrairement à ce que pourrait véhiculer une certaine idéologie volontariste, individualiste, qui dit voilà, la confiance se développe par l'entraînement, par les compétences, par les 10 000 heures de travail, etc. Ça, c'est une dimension de la confiance qui existe évidemment, mais qui est assez restreinte. Si vous remontez au début de la vie humaine, vous apercevez bien qu'un petit animal humain, il ne va pas prendre confiance en lui tout seul, il ne va pas développer ses compétences tout seul. Il est complètement dépendant. On est beaucoup plus dépendant que la plupart des mammifères à la naissance. On est extrêmement fragile, on est dans une sorte de détresse infantile, de dépendance absolue à l'égard des autres pour survivre. Donc votre question est évidemment très bonne. La confiance, elle vient des autres. Elle vient d'abord des autres. Des autres qui savent me mettre en confiance, m'envelopper, me porter, me sécuriser, m'enseigner, m'apprendre. Et puis après, quand je suis à peu près, quand j'ai grandi, me faire confiance, me confier une mission ou une responsabilité. D'ailleurs, on retrouve une question de management importante. C'est que le manager, il doit savoir faire les deux. Ou la manageuse, évidemment, mettre en confiance, c'est-à-dire sécuriser, envelopper, puis faire confiance, c'est-à-dire déléguer, confier une mission, et pas vouloir tout contrôler. Mais il faut faire les deux. Et ça, c'est la grâce de la confiance relationnelle. Pour vous répondre de façon plus complète, je dirais que dans toute confiance, il y a trois dimensions. La dimension de la compétence qui est quand même présente, mais qu'il ne faut surtout pas réduire à ça. C'est-à-dire que la compétence, c'est la condition de la confiance, mais c'est une condition en général insuffisante. Ensuite, il y a la qualité de la relation humaine, la qualité des relations que j'ai avec ceux que je vois tous les jours. Et là, on rejoint le bonheur au travail, dont le premier critère est la qualité de l'environnement relationnel. Et on voit bien que ça impacte la confiance en soi. Et il y a une troisième dimension de la confiance qui est centrale, c'est une confiance en la vie. C'est-à-dire, pas en ma technique et en ma compétence, pas en les autres et en la relation, mais en je ne sais quoi, qui s'appelle la vie, qui s'appelle la chance, qui s'appelle le karma, qui s'appelle le monde, qui s'appelle la nature. On pourrait multiplier les mots, mais c'est très important.
Vous dites aussi que la confiance en soi est fille du plaisir. Est-ce que le plaisir, c'est un moteur indispensable, notamment au travail ?
Alors oui, je vais vous dire un truc. Ça fait 30 ans, moi je ne suis pas si vieux, 25 ans, que j'interviens en entreprise. Depuis que je suis prof de philo, je fais des missions en entreprise, de la formation, des conférences. J'ai toujours adoré ça. Et je ne fais pas partie de ces philosophes qui ont une sorte de mépris pour l'entreprise. Moi, j'aime bien ça, ça me fait marrer, ça m'intéresse. Et j'ai observé de mes yeux, juste comme un spectateur, qu'en France, souvent, il faut avoir triste mine pour avoir l'air compétent et être crédible dans son travail. Autrement dit, qu'il y a une sorte de soupçon sur le plaisir. Il y a un soupçon sur quelqu'un qui est trop souriant, qui prend du plaisir. On le soupçonne de penser à autre chose, d'être un peu dilettante, d'être un peu amateur. C'est consternant. Parce que quand on s'intéresse à l'histoire de la philosophie, par exemple, beaucoup de philosophes, et pas des moindres, comme Aristote, ont dit que l'indice de la compétence supérieure était le plaisir qu'on prend à ce qu'on fait. Et il dit, par exemple, qu'est-ce qui distingue un boulanger qui est bon d'un excellent boulanger ? C'est que l'excellent boulanger, il kiffe. L'excellent boulanger, pourquoi son geste est parfait ? Parce qu'il y prend du plaisir. Alors moi, quand je vois dans des grosses boîtes, même dans le monde du luxe où j'interviens beaucoup parce que j'ai écrit sur la beauté, les gens ils tirent la gueule, ils marchent comme ça, stressés dans les couloirs, avec l'air de gérer une affaire d'État, en étant gangrénés par le visage de l'esprit de sérieux. On a envie de leur dire d'abord détends-toi, parce que ça sert à rien de stresser tout le monde, et surtout... En fait, si tu ne prends pas de plaisir, en fait, c'est que tu n'es pas bon. Hein. C'est que tu n'es pas assez bon. Vas-y, développe-toi. Et d'ailleurs, la joie que j'évoquais au début de notre entretien, au sens de Spinoza, c'est lié à l'accroissement de mon talent, à l'accroissement de ma puissance d'exister. Mais il n'y a pas que Spinoza qui dit ça. Y a même... En fait, tous les grands philosophes, ils ont valorisé le plaisir et la joie dans le rapport à la compétence et même à l'accroissement de la compétence.
Pour finir, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce qui vous procure, vous, du plaisir dans votre travail ?
Ce qui me procure du plaisir, plein de choses. Il y a beaucoup de moments sans plaisir pour moi aussi, où je galère, où je refais les phrases 10 fois, où j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais quand même, un des plus grands plaisirs de mon métier, c'est de découvrir des idées nouvelles. Et c'est aussi d'avoir de la curiosité et de sentir la joie de penser, finalement. Cette joie-là, elle est d'abord, j'ai envie de la partager, c'est une joie quand même... d'être surpris aussi. La joie d'être surpris par une idée, la joie de, aussi de voir que cette idée, elle vient quand elle veut, pas quand on veut. C'est pas parce que j'ai décidé de me mettre à mon bureau maintenant que ça va être le moment. Parfois, on va marcher, on va faire ses courses et on est au supermarché avec son sac là et boum, l'idée jaillit. Et ça, en fait, la joie, c'est d'accueillir les choses aussi inattendues, je trouve. Et donc, pour moi, il y a un grand plaisir à accepter que ma vie ne ressemble pas à ce que je voulais qu'elle soit et que les choses ne se passent pas comme prévu. Et je pense que c'est ça, il y a une forme de sagesse à ne pas vouloir tout contrôler et à essayer d'être disponible à ce qui n'était pas prévu.
Merci beaucoup.
Merci.
Courrier cadre, l'entretien.